On va parler de négociations salariales dans ce journal. On reviendra sur les faits divers très durs qui ont marqué ces derniers jours. Et puis on fera un tour par le Tour Tahiti Nui en cyclisme. Et c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence par l'actualité sociale.
Oui, avec ces négociations qui ont eu lieu hier à la présidence entre le gouvernement et quatre organisations syndicales. Alors rappelez-vous, voilà près d'un mois, la CSTPFO, CSIP, OTAI et OETOERIMA avaient envoyé une liste de 15 revendications au président du pays. Au menu, l'évolution du code du travail, le déplafonnement du taux d'ancienneté, le fonctionnement du dialogue social, le financement des syndicats, mais aussi les conditions de départ à la retraite et bien sûr les révisions à la hausse des grilles salariales face à l'inflation. Car si le SMIC a bien augmenté par 3 fois depuis un an, le reste des salaires, lui, n'a pas forcément bougé. On écoute Patrick Galnon, le secrétaire général de la CSTPFO.
Aujourd'hui, on est, je crois, à 7,6% d'inflation. Donc, à un moment donné, il faut que les salariés puissent retrouver leur pouvoir d'achat. Puis, il n'est pas normal que lorsqu'on regarde les prix qui augmentent comme ça, on nous parle de 7,6%. En fait, dans l'alimentaire, c'est beaucoup plus haut. À un moment donné, il faut quand même que les responsables du pays fassent en sorte qu'on ne continue pas cette inflation parce qu'il y en a qui sont laissés pour compte.
Voilà, alors le sujet des salaires, bien sûr, concerne davantage les discussions entre patronat et salariés que le gouvernement, sauf que les négociations annuelles dans les branches et les entreprises se passent visiblement mal et que d'après les syndicats, c'est la faute à la fameuse prime défiscalisée proposée par le MEDEF et avalisée par le pays. Elle doit encore être votée à Talaoï. Pour beaucoup de syndicalistes, les patrons préfèrent cette prime à des revalorisations durables. Sans avancer, ça risque de chauffer, prévenait encore ce matin un représentant des salariés. Édouard Fritsch a assuré qu'il interviendrait auprès du MEDEF sur ce point.
Le festival de la jeunesse a été lancé hier.
Oui, il a été inauguré malgré la pluie à Toitain en présence de plusieurs membres du gouvernement, du haut-commissaire Eric Spitz et surtout de plusieurs centaines de 15-25 ans venus pour certains des Raro Matei ou de Morea. Au total, c'est 3800 jeunes qui sont attendus jusqu'à vendredi sur les dizaines de stands montés de Paofa et Afa en passant par Tiperui. Si on parle par endroit d'environnement, d'engagement citoyen ou encore d'addiction, c'est la musique, la danse et le sport qui sont au centre de ce festival. Destiné à renforcer la cohésion des jeunes et à les remercier, je cite, après une période Covid compliquée. Et ce cocktail, visiblement, il plaît, il donne même des idées à certains. On écoute Tao Atea Chong, il vient de Wainé.
Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des formations et tout, pour pourquoi pas nous, plus tard, encadrer nos jeunes et tout, pour qu'on puisse nous-mêmes organiser ce genre d'événement dans les îles. Chez nous, il manque des personnes qui veulent s'engager pour la jeunesse. Les installations aussi, on n'a pas tout ce qu'il faut dans les îles, du coup c'est difficile. Mais je sais que petit à petit, ça va venir.
Voilà, Tao Atea, 20 ans, visiblement confiant dans l'action des autorités. D'autres le sont moins. Tao Nui, 21 ans, est animateur à Uturoa. Ce rassemblement festif, il le salue, mais il espère surtout qu'il sera l'occasion pour le gouvernement de réellement entendre les besoins de la jeunesse.
Est-ce que les jeunes seront écoutés? C'est ça la question. Est-ce qu'il y aurait une attention qui sera faite à leur bien-être? Est-ce que tous les problèmes qui existent actuellement sur Tahiti ainsi que sur toute la Polynésie va trouver solution? C'est ce que je me demande en fait. Est-ce qu'on va donner les moyens nécessaires aux personnes qui encadrent des jeunes, comme les associations ou autres, qui sont là pour accueillir et faire en sorte de former les jeunes à pouvoir s'en sortir dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle ou personnelle lui-même?
Et face à ces 15-25 ans, le ministre de la Jeunesse et de la Prévention de la Délinquance, Naéa Bennett, a rappelé qu'il préparait une nouvelle feuille de route de la politique jeunesse du pays, une feuille de route concertée, co-construite même, avec des jeunes issus d'associations ou de congrégations religieuses. Une feuille de route qui doit être présentée avant la fin de l'année. On écoute Naéa Bennett, il est au micro de Vaitiaré Gobré.
J'ai mis en place un comité de jeunes pour pouvoir avec eux travailler sur les actions que nous voulons mettre en place, et ils ont donné beaucoup d'actions déjà qu'on peut appliquer à partir de maintenant sur les jeunes. Par exemple, les mettre en valeur dans leur commune. Moi, ma politique jeunesse, c'est vraiment d'intégrer les jeunes dans la conception de cette politique. Hein, donc, comme je l'ai répété, on a essayé de réfléchir trop souvent que nous, les adultes, pour pouvoir leur proposer. Et moi, voilà, c'est une ambition peut-être de pouvoir les intégrer. Mais je pense que c'est la meilleure façon pour pouvoir atteindre notre objectif.
Fait divers maintenant avec ce suicide en prison.
Oui, celui du lycéen de 15 ans qui avait poignardé un élève du collège Henri Hérault le 10 octobre dernier. Arrêté puis placé en internement psychiatrique où il a fait l'objet d'examens, il en était sorti mardi pour être déféré devant le juge d'instruction. Comme le précise Tahiti Info, il avait été placé en détention provisoire le soir même à Nuutania où le jeune homme a mis fin à ses jours par pendaison.
Et toujours du côté des faits divers et de la justice, une mise en examen pour assassinat.
C'est le procureur de la République, Hervé Leroy, qui l'a annoncé hier. Le père de l'enfant de 3 ans, retrouvé étranglé dimanche à Maïna, a été mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. D'après le procureur, l'homme de 41 ans entretenait des relations conflictuelles avec sa compagne et avait envisagé depuis plusieurs semaines, visiblement, de la priver de son enfant, je cite, avant de mettre fin à ses jours. À l'arrivée des gendarmes dimanche, il avait d'ailleurs ingurgité des médicaments, se trouvait dans un état second et avait tout de suite reconnu sa culpabilité. Il a été placé en détention provisoire en attendant un procès devant la cour d'assises.
Et puis on fait un tour du côté de la CPS qui renouvelle son site internet.
Oui, avec cette nouvelle mouture et une navigation entièrement repensée, ce site sera désormais plus facile. Il sera plus facile de trouver des informations utiles, des démarches simplifiées à distance. Il s'agit d'un site adapté aux besoins des ressortissants de la caisse, assure Vincent Frable, directeur général de la CPS. On l'écoute.
L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de service. Donc tout ce qui peut être fait à distance, et pour ceux qui le souhaitent, on essaie de fournir cette prestation. Mais quand c'est nécessaire ou quand c'est souhaité, les gens peuvent continuer à venir en présentiel, soit dans une antenne, soit au siège. On peut aussi nous contacter par téléphone, hein, on a un centre d'appel. Mais effectivement, plus on pourra faciliter les démarches classiques en ligne, et plus on aura une capacité à répondre aux opérations complexes et à le faire avec une qualité de service. Service accru.
Et il est à noter que ce site doit être évolutif et qu'à court terme, la CPS compte offrir une version en Reo Maui.
Et puis on finit par du sport avec le Tour cycliste.
Et oui, le Tour Tahiti Nui qui est parti dimanche de Taravao. La quatrième étape devait s'étendre hier sur 100 km entre Aroué et Taravao. Aller-retour, elle a finalement été arrêtée au bout de 8 km par le président de la Fédé à cause des risques engendrés par la pluie. Une étape qui aura lieu donc ce matin en version raccourcie mais qui fera tout de même chauffer les cuisses puisque l'arrivée est toujours prévue sur les hauteurs d'Eri. Après ça, il y aura tout de même la cinquième étape en contre-la-montre à la Presqu'île. Côté classement, c'est le coureur de Pirée, Julien Trailleux, qui porte toujours le maillot jaune. Il devance le Calédonien Ryan Lacheny et Kairi Handler de la Punaru. Et puis dans le Tour des Vahinés, c'est Kélian Julius qui est en tête à 2 étapes de l'arrivée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le retour de l'actu, ce sera à 8h et ce sera pour le Flash.
Merci beaucoup, Charles.